إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم المبارك، درسنا الذي بدأناه يوم الأربعاء، وتطرقنا إلى عدة نقاط أساسية محورها ذكر فوائد تعلم اللغة العربية، فذكرنا 5 فوائد في فضل وأهمية تعلمها. النقطة الثانية، جمعنا أقوال أهل العلم من الخلف والسلف في حكم تعلم اللغة العربية، حيث جمعنا بفضل الله جل وعلا 25 قولا، وهذه الأقوال جمعتها من كتابين، وأقول من كتابين، ولا شك أن أقوال أهل العلم في ذلك منشورة في كتبهم، فاعتمدت على كتابين موجودين في السوق، ألا وهما التعليقات الجلية على شرح المقدمة الآجرومية للشيخ فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث اعتنى صاحب الكتاب وبالأخص المعلق عليه أحد طلبة العلم بمقدمة وجدتها نافعة، حيث جمع فيها الآثار وأقوال أهل العلم في فضل تعلمها. ثم وجدت أيضا فوائد شتى وآثارا في فضل تعلمها في كتاب مراتب طلب العلم وطرق تحصيله لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، حيث في هذا الكتاب القيم خص بابا في فضل تعلم اللغة العربية، فجمع جزاه الله خيرا آثارا عن أهل العلم في هذا الباب. وبقي لنا، وإن تيسر إن شاء الله تعالى، أن نكمل ما تبقى لنا من النقاط التي ذكرناها، وهي فهرس جلساتنا. فبقي لنا ذكر الحكم الشرعي في تعلم اللغة العربية، وأخيرا وختاما إن تيسر لنا من الوقت أن نذكر أثر اللغة العربية في أو عند أهل العلم في استنباط الأحكام، سواء في تفسير كلام الله جل وعلا والأحكام المستنبطة من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى من كلام العرب في مخاطبتهم. ف سأذكر بعض الأمثلة إن تيسر لنا في أثر اللغة، وأتحفكم في نهاية الحصة بعنوان كتاب يخص هذه النقطة الأخيرة. Donc je disais, on avait commencé la semaine dernière, ou le mercredi dernier, cette assise concernant les avantages, le mérite, l'importance d'apprendre la langue arabe. Et pour faire un résumé rapide et un rappel, j'ai essayé de décomposer ou traiter 4 sujets ou 4 points différents pour avoir une vue générale sur l'importance d'apprendre la langue arabe. Par laquelle on avait commencé par الفوائد أو فوائد تعلم اللغة العربية. On avait commencé par le premier point et on avait déjà traité ça, l'importance ou les avantages d'apprendre la langue arabe. On avait cité 5 avantages. Le deuxième point qu'on avait traité aussi, c'est, j'ai lu, on a exposé les textes et les paroles des savants concernant ce point qui est l'apprentissage de la langue arabe et ses mérites. J'essaie de regrouper, grâce à Allah, 25 textes différents de plusieurs savants. Si ce n'est pas plus que 20 savants concernant ce point et ses avantages, ces textes étaient tirés à partir de deux livres sur lesquels je me suis basé. Le premier qui est At-Ta'liqat al-Jaliya ala muqaddimati ou ala sharh al-muqaddimati al-Ajarrumiyya li Cheikh al-Uthaymi rahimahullah. Et le deuxième livre Maratibu Talab al-Ilmi wa Turqi Tahsilihi li Cheikh Sa'id Raslan, Muhammad ibn Sa'id Raslan, hafidhahullah ta'ala. Donc le premier livre où son auteur, qui n'est pas Charles Fahmi Rahimahullah, mais c'est lui qui a essayé de faire le livre, il a commenté ce livre, le livre de l'explication de l'Ajr Rumiyya de Charles Fahmi. Il y a un demandant de science qui a fait ce livre, qui a essayé de regrouper, de transcrire ce livre, et dans lequel il a commenté ce livre, et au début du livre, j'ai trouvé une introduction de celui qui a commenté le livre, qui est un demandant de sens parmi pour la Belen. Il a parlé sur l'importance de la langue arabe et surtout il a cité la parole des savants sur l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. C'est pour ça que je me suis basé sur cette introduction du livre. Et aussi, le deuxième livre de Cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan. Son titre c'est Maratib Talab al-Ilmi wa Turuq Tahsilihi. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, Mohammed ibn Sa'id Raslan, parmi Talabat al-Ilm, Jazahullah Khaira, il a essayé de parler sur les degrés et les méthodes d'apprendre la science. Et dans ce livre, il a spécifié un chapitre sur la langue arabe, dans laquelle, c'est pour ça que j'ai trouvé, il a rapporté des textes concernant l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. Donc, ces 25 textes différents de plusieurs savants, d'une vingtaine ou plus, tirés de ces deux livres. Ensuite, on avait traité ces deux points, alhamdoulilah, c'est-à-dire le premier et le deuxième, qui concernent les avantages, et le deuxième point, c'est les textes, qui incitent à apprendre la langue arabe. Il nous restait deux points qu'on va essayer de terminer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, qui est le jugement de l'apprentissage de la langue arabe. On va parler sur le jugement vis-à-vis la jurisprudence. Al-Hukm Shar'i. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il est préférable ou permis? On verra, Inch'Allah Ta'ala, la parole des savants sur ce point. Et pour terminer, je vais peut-être citer certains exemples, j'ai préféré que ce soit une pratique sur certaines choses, et on va montrer l'influence et l'impact de la pratique, ces règles du grammaire ou de la langue arabe sur les textes, c'est-à-dire sur la parole d'Allah qui est le Coran, sur la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le Hadith, et aussi même dans la langue arabe en elle-même, dans les discussions. On va donner des exemples, on va montrer l'importance de connaître l'arabe pour comprendre. Et on va parler sur ce point, et on va donner des exemples pratiques. On va donner des versets, ensuite un hadith et des exemples, et on va voir. Et si on termine, Inch'Allah, vous allez voir, si je me permets de le dire, la gravité de ne pas connaître la langue arabe. pour comprendre soit la parole d'Allah, soit la parole du Prophète, soit dans les discussions. Incha'Allah ta'ala. Donc avant de commencer, j'essaie de lire rapidement la deuxième partie concernant les textes qui parlent sur l'importance de la langue arabe, parce que j'ai lu juste la partie en arabe, mais j'ai pas pu tout terminer. Je vais les lire et les traduire, et on parle la suite, on abordera Inch'Allah le jugement d'apprendre la langue arabe et terminer, donner des exemples pratiques. On s'est arrêté de la parole de Ibn Kathir rahimahullah quand il a dit, quand il a expliqué le verset Inna anzalnahu Qur'anan arabiya. Certes, nous avons révélé le Coran en arabe. Ibn Kathir a dit لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ. Ibn Kathir rahimahullah, selon d'après ce verset, il a expliqué, il a dit certes parce qu'elle est la langue d'arabe qui est la plus éloquente parmi les langues, وَأَبْيَنُهَا, et la plus claire, وَأَوْسَعُهَا, la plus large, وَأَكْثَرُهَا تَأْدِيَةً لِلْمَعَانِي الَّتِي تَقُومُ بِالنُّفُوسِ, et la langue par laquelle on peut exprimer facilement. فَلِهَذَا أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ إِلَىٰ آخِرِ كَلَامِهِ رَحِمُ اللَّهِ. Donc, on vient d'écouter, il a donné les caractéristiques de la langue arabe par rapport aux autres langues. Quelle est la plus éloquente, la plus claire, la plus large et vaste, et la plus exprimante, c'est-à-dire on peut exprimer facilement des sens. C'est pour ça qu'il a dit فَلِهَذَا أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ. C'est pour cela le Coran ou le livre, il était révélé par, ou le meilleur des livres, il était révélé par la meilleure des langues. إِلَىٰ آخِرِ كَلَامِهِ رَحِمَ اللَّهِ, jusqu'à la fin de son paragraphe. Donc ça c'est la parole de Ibn Kathir concernant la langue arabe. Aussi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim, إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dans son ouvrage اقتداء الصراط المستقيم, il dit إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي. Certes, parce que Allah Ta'ala il a révélé le Coran avec la langue arabe. وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان العربي. Il a fait descendre, ou il a fait transmettre son livre par son messager, qui a transmis son livre par sa langue, c'est-à-dire la langue arabe. وَجَعَلَ السَّابِقِينَ فِي هَذَا الدِّينِ مُتَكَلِّمِينَ بِهِ. Il a fait aussi que les prédécesseurs parlaient avec cette langue. وَلَمْ يَكُلْ سَبِيلٌ إِلَىٰ رَبْطِ الدِّينِ وَمَعْرِفَتِهِ. Et aussi, il a fait ou il a mis que la compréhension ou la compréhension de la religion et sa connaissance n'est pas réalisée qu'avec ou que par la précision de cette langue. صارت معرفته بن الدين. Par la suite, la connaissance de cette langue a fait partie de la connaissance de la religion qui est din. وَأَقْرَبَ إِلَىٰ إِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ. Vous remarquez l'importance d'apprendre l'arabe, et c'est que il a donné le lien entre le livre d'Allah, son messager et les prédécesseurs, et par la suite la compréhension de ce livre elle est qu'avec la langue arabe. Et aussi parmi les savants, قال أبو إسحاق الزجاجي سمعت أبا العباس المبرد يقول: كان بعض السلف يقول عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة، وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته إلى آخر كلامه رحمه الله. Une autre parole concernant l'importance et le mérite d'apprendre la langue arabe. Abu Ishaq al-Zajjaji dit: j'ai entendu Abu al-Abbas al-Mubarrad yaqul, il disait, les savants ou les prédécesseurs disaient alaykum bil arabiyya, c'est-à-dire apprenez, donnez l'importance à la langue arabe. Fa innaha al-muru'atu adh-dhahira, certes elle est la, comment traduire al-muru'a, la virilité, al-muru'atu adh-dhahira. La virilité qui... Non, ça n'a rien à voir avec la première phrase qui précède. J'ai trouvé la traduction de la virilité. Al-muru'a. Hein? Pas ça. On aura l'occasion. On va voir là, par exemple, le fait qu'on ne connaît pas la langue. Peu importe. Mais on reste sur le texte عليكم بالعربية وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته. Il a dit donnez l'importance, ou apprenez la langue arabe, certes elle est المروءة الظاهرة, que je n'ai pas pu le traduire. وهي كلام الله عز وجل, la langue arabe elle est la parole d'Allah عز وجل et ses prophètes et ses anges. Regardez le statut de la langue arabe. Et aussi, un autre texte. وَكَانَ الْعَرَبُ يَفِرُّونَ مِنَ الْوُقُعِ فِي اللَّحْنِ. Et aussi, les Arabes, avant, ils fouillaient ou ils évitaient de commettre des erreurs ou des fautes dans leur discours. وَيَحُثُّونَ عَلَى تَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ, il insiste à apprendre la langue arabe. وَقَدْ عَقَدَ إِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بَهْجَةُ الْمَجَالِسِ وَأُنْفُ الْمُجَالِسِ بَابًا فِي. En plus, il rapporte aussi que Ibn Abd al-Barr, il a fait son livre qui s'appelle بَهْجَةُ الْمَجَالِسِ وَأُنْفُ الْمُجَالِسِ. Dans son livre, il a fait carrément un chapitre sur اجتناب اللحن, l'éloignement ou le fait d'éviter de commettre des erreurs dans la langue arabe. Et il a fait aussi un autre chapitre sur تعلم العربية, l'apprentissage de la langue arabe. Et aussi un troisième chapitre ذم الغريب من الخطاب, aussi comment dire ذم الغريب. Mettre en garde tout ce qui est étrange de la langue arabe. Donc vous remarquez carrément, il a fait des chapitres spécialement pour ces sujets. Et dedans, il a rapporté des informations et ash'ar, des poèmes concernant ces sujets. حول هذا الأمر concernant ce sujet. نعم. وصدره بقول عمر رضي الله عنه. Dans ces trois sujets qu'on vient de citer, carrément il a introduit, il a précédé ces trois chapitres par la parole de عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي موسى الأشعري. Quand il a écrit Abu Musa al-Ash'ari une lettre, et on savait que à l'époque de عمر الخطاب, il envoyait à chaque gouverneur à son époque des lettres, c'est-à-dire des conseils ou des recommandations par lesquelles Omar Khattab, quand il a écrit Abu Musa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a dit? Amma ba'd fatafaqahu fi sunnah, apprenez la sunnah wa ta'allamu al-arabiyyata, et apprenez la langue arabe. Wa a'ribu al-qur'ana, et méditez ou apprenez al-qur'an, le Coran. Fa innahu arabi, certes ou car il est en arabe. Donc ça c'est le conseil de Omar al-Khattab. Et aussi il a dit, وَقَالَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ. Dans un autre passage il dit, تَعَلَّمُوا apprenez la langue arabe. فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ certes, elle est de votre religion. وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ et aussi apprenez les règles de l'héritage. فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ certes ou car elle est de votre religion. Aussi, une parole de Abdullah al-Mubarak, il a dit أَلَّحْنُ فِي الْكَلَامِ أَقْبَحُ مِنْ آثَارِ الْجُدَرِيِّ فِي الْوَجْهِ et aussi une parole de Shu'ba. قال مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له. Shu'ba il dit celui qui apprend le hadith, la parole du Prophète sallam, et qui n'apprend pas aussi un nahw, qui est l'analyse grammaticale, qui est une filiale de la langue arabe, une matière de la langue arabe, كمثل البرنس لا رأس له. On a dit le burnus c'est un habit arabe. Comment il ressemble au Mustafa? Hein? Fais-nous ça. Al-Burnus. Des fois, on trouve des mécheikh, ils portent le khamis, mais sur le khamis, comment on l'appelle ça? Hein? Un manteau, mais il a une façon. Vous avez remarqué, Shoraim ou Soudès, quand ils portent un truc noir, ou ça dépend la couleur. Mais en plus, il a une capuche. Les deux, d'une matière, pas avec la même matière, ils s'appellent al-burnus. C'est un habit arabe, on le trouve dans les pays maghrébins ou même les pays africains, on le trouve, les gens le portent. Il a donné un exemple, il a dit, celui qui apprend le hadith et qui n'apprend pas la langue arabe ou l'analyse grammaticale, c'est comme le burnus, mais il n'a pas la capuche. Et c'est vrai, le burnus, c'est quoi qui le met en valeur? C'est sa capuche en fait. Il faut le voir, inchallah. نعم وقال الأصمعي رحمه الله إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. الأصمعي كيسكيزي إن أخوف ما أخاف عليه على طالب العلم. Le plus que j'ai peur pour le demandeur de science, le fait qu'il ne connaît pas la langue arabe, et j'ai peur qu'il rentre dans la parole du Prophète, celui qui monte sur moi volontairement, qu'il choisit sa place ou sa chaise dans l'enfer. Dans le sens. Et aussi, Asnad al-Khabib ou Anir Rahbi, قال, سمعت بعض أصحابنا يقول, إذا كتب لحان, فكتب عن اللحان لحان آخر, صار الحديث بالفارسية. Aussi, un autre texte de Khattabi, d'après Rahbi, il a dit, j'ai entendu nos savants, ou nos amis, qui signifie nos savants, parce que c'est un savant, donc cette expression, بعض أصحابنا, qui signifie nos savants. يقول, إذا كتب لحان, on a dit le terme, on a expliqué le terme, اللحن. Le terme اللحن signifie une erreur grave. Une erreur ou une faute grave dans la langue arabe. Ou on simplifie par une erreur ou une faute dans la langue arabe. Donc le terme lahan, c'est celui qui parle mais il commet des erreurs. Donc c'est lui qui dit lahan. Et c'est pour ça qu'on dit lahana fi kalamihi. C'est-à-dire, il a fait des. Au lieu de dire akhta'a fi kalamihi, on peut dire cette façon lahana fi kalamihi. C'est-à-dire, il a commis des erreurs dans ses paroles. Donc celui qui fait des erreurs, on l'appelle lahan. Donc il rapporte, si un lahan écrit sur un autre lahan, le hadith il devient bil-farisiyya. Il devient pas en langue arabe, mais il devient perse. Il devient en perse. C'est comme le hadith il est en langue arabe, mais si une personne qui commet des erreurs transmet ce hadith, il vient un autre lahan qui commet des erreurs, il prend d'après un autre lahan, à la fin, il ne devient pas en arabe, mais il devient en perse. Vous remarquez la gravité de celui qui commet des erreurs et qui ne maîtrise pas la langue arabe. Et aussi, comme ça on va terminer, وَقَالَ ابْنُ جِنِّي إِنَّ أَكْثَرَ مَنْ ظَلَّ مِنْ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ عَنِ الْقَصْدِ فِيهَا وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَ إِلَيْهَا فَإِنَّمَا اسْتَهْوَاهُ وَاسْتَخَفَّ حِلْمَهُ ضَعْفُهُ فِي هَذِهِ اللُّغَةِ الْكَرِيمَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي خُوضِبَتِ الْكَافَةُ بِهَا انْتَهَى. Et aussi l'imam Shafi'i, une autre parole, l'imam Shafi'i, rahmallahu alayhi,
من تبحر في النحو اهتدى الى كل العلوم. Regardez, ça c'est la parole d'or de l'imam Shafi'i Rahimah qui dit, celui qui se spécialise ou qui maîtrise tabahhar, il devient une mère dans la langue arabe, c'est-à-dire il maîtrise, il a une bonne connaissance dans la langue arabe, et ihtada ila kulli al-ulum. Cela, ça lui facilitera toutes les sciences. وقال أيضا إلى ذي رحمه الله لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. Il a dit, il n'y a pas un sujet dans la jurisprudence sur lequel j'étais interrogé et je n'ai pas trouvé la réponse qu'avec les règles de la langue arabe. Est-ce que c'est clair? Tellement, et c'est vrai, on a dit, Imam Shafi'i Rahimahullah, il est connu par sa maîtrise de la langue arabe et on le remarque quand il explique ou essaie de faire. Quand il tire des jugements, il se base sur la langue arabe et certainement c'est un moyen et c'est un outil qui permet de comprendre la parole d'Allah et la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est parmi les textes. Il y a aussi, même Ibn Shafi dit, pour terminer, « Ma aratu biha » c'est-à-dire « Al-Arabiya illa al-isti'anata al-al-fiqh » c'est-à-dire « Je n'ai pas appris » c'est-à-dire « Je n'ai pas maîtrisé la langue arabe que pour apprendre la jurisprudence ou pour la faire ou pour la mettre pour un outil qui me permet de comprendre la jurisprudence. Donc ça c'est en gros et rapidement les textes, les 25 textes parmi les textes qui existent. C'est-à-dire j'ai pas eu trop le temps pour chercher, mais c'est largement suffisant c'est-à-dire c'est les textes qu'on a entendus, alhamdoulilah. Et je vous ai dit, celui qui veut revenir à l'origine de ces textes, qu'il revient à l'auteur ou le demandeur de science qui a fait le livre Ta'liqat al-Jaliya à la Sharh al-Muqaddimah al-Ajramiyah de Cheikh, qui s'appelle Abu Anas Ashraf ibn Yunus ibn Hassan. Donc c'est lui qui a commenté le livre de Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, il a cité ses paroles. Ou il y a aussi le livre de Cheikh Mohamed ibn Sa'id Raslan, qui est Maratibi Talab al-Ilmi wa Turqi Tahsilihi, c'est un petit ouvrage pour ceux qui veulent débuter dans la science, qui commence par ce livre, comment apprendre, et c'est quoi la méthodologie d'apprendre la science, dans laquelle il a introduit un chapitre concernant la langue arabe. Donc ça c'est en gros, en général et rapidement, pour terminer, et comme ça on pourra aborder les deux points qui restent. Donc, le troisième point qu'on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, c'est, quel est le troisième point? Le jugement de l'apprentissage de la langue arabe. Pour faire rapide, et celui qui veut revenir ou avoir une réponse rapide, claire, évidente, argumentée, qu'il revient à un livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est un livre sans commentaire. C'est un livre d'or. Certainement, vous entendez par le livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashab al-Jahim de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et j'ai pas trouvé plus que ce qu'il a dit. Même si les autres savants, ils le rejoignent dans ce qu'il a dit. Mais si je me base sur Cheikh Salim Jamil Amla, parce que c'est un résumé de deux pages, et même, alhamdulillah, j'ai trouvé même la traduction en français, donc celui qui la veut parle à la fin, que je lui donne la traduction en français, Inch'Allah Ta'ala, du texte, que je vais le lire, en arabe, et par la suite, je vais le lire en français comme ça, ça va donner un résumé. Et lui, Cheikh Salim Jamil Amla, avant de répondre à la question, quel est le jugement d'apprendre la langue arabe, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a pas répondu à ce point, mais d'après cet ouvrage qui est Iqtida al-Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashab al-Jahim. C'est un livre, celui qui maîtrise la langue arabe, je vous conseille de revenir à ce livre. Il a traité beaucoup et plusieurs et divers sujets, parmi lesquels il a parlé sur l'importance ou la langue arabe. Et les savants en général, toujours revient à ce qu'il a dit, ce qu'il a rapporté, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et même aussi dans ses fatawa, majmou' al-fatawa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, aussi dans ses ouvrages, il a des fatwas concernant, on va les lire par la suite, inshallah ta'ala. Donc je reviens à un passage qui est dans le livre Iqtira' as-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim, et ce livre, il est même authentifié, il est même expliqué, et ben surtout l'ouvrage que j'ai, c'est Cheikh Nasser ibn Abdel Karim al-Aql. Il a fait un tahqiq, il a authentifié, il a même fait un commentaire sur le livre, qu'il est en deux tomes. Je vous conseille de l'avoir, inshallah. Pour ceux qui peuvent, inshallah. Donc je reviens aborder le point, le jugement d'apprendre la langue arabe. Et c'est ça le plus important. Même si normalement, le fait de connaître les avantages d'apprendre la langue arabe. Ensuite, les 25 textes qu'on a cités parmi les textes qui existent, de l'importance, le mérite et l'impact de apprendre la langue arabe, normalement, chacun doit savoir quel est le jugement. Mais quand même, on va le traiter, on va citer la parole des savants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avant ça, qu'est-ce qu'il a traité ? Il y a un passage qui parle sur quel est, avant que de répondre à la question, quel est le jugement d'apprendre la langue arabe ? Avant ça, on va répondre à une question. Quel est le jugement de parler avec une langue qui n'est pas la langue arabe ? Samir. Est-ce que c'est clair ? Avant de répondre à la question, quel est le jugement d'apprendre la langue arabe ? Je vous pose une question. Quel est le jugement de parler avec une langue qui n'est pas la langue arabe ? Une autre langue. Aïe, quelle est une réponse ? Non. Donc lui il dit, il est préférable de parler la langue arabe. Pourquoi ? Pour éviter le malheur ou le danger des autres. Parce qu'ils peuvent même t'insulter ou te mettre une ambiguïté, mais tu seras incapable de répondre. Donc pour éviter ce mal ou pour se protéger, on apprend la langue des autres. Mais quand même a priori la langue arabe. Non. C'est le Sar et les Varif. Ce texte qui dit celui qui connaît la langue arabe, mais il parle avec une autre qui n'a pas la langue arabe, il a un signe d'hypocrisie. Et là, le hadith, même ce Akhar, il est faible. Il n'est pas authentique. Mais quand même, on le garde. Naam, quel est le jugement de parler avec une langue qui est autre que la langue arabe ? Aïe, on a le temps pour... Hein ? Une autre réponse. Naam, j'ai compris. Mais quel est le jugement ? Ouais, obligatoire, testé d'âme, interdit, haram, permis, etc. D'accord, il y a un détail ici. Donc je vais lire la parole de Cheikh Zayn Ibn Rahimullah qui répond à ça. وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عامة عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. Donc ça c'est la réponse de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Je vais lire la traduction de ce passage en français. Il dit, quand on fait de s'habituer à parler en une langue autre que l'arabe, qui est le symbole de l'islam et la langue du Coran, au point que cela devienne une habitude dans le pays, avec sa famille et les membres du foyer, avec ses amis, au marché, en s'adressant aux représentants du gouvernement, ou les responsables d'autorité, ou en parlant aux gens de la science, sont, donc ils ont le jugement, il dit, sans aucun doute, cela est macro, c'est-à-dire détestable, parce que cela implique la ressemblance au nom arabe, ce qui est macro, comme exposé précédemment. Donc le fait de parler, bien sûr on parle sur ceux qui connaissent la langue arabe. Ceux qui connaissent la langue arabe. Mais, on a écouté la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit, le fait de parler la langue arabe, à un point, elle devient une habitude dans le marché, à la maison, avec les amis, au foyer, avec les représentants du gouvernement ou avec les gouverneurs, tous ces endroits, certainement et sans aucun doute, c'est détestable. Pourquoi ? Parce que ça fait une ressemblance aux ajim qui sont les noms arabes. Et certainement, on évite, on est recommandé de ne pas les ressembler. Même dans les langues. Parce que les gens pensent que non, parce que tant que je ne m'habille pas avec comme lui, tant que je ne crois pas ce qu'il croit, tant que j'adore pas ce qu'il adore, je suis bien. Non. Même dans la langue arabe. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est détestable dans ce cas. Donc on doit faire attention. Et il n'y a pas que lui qui dit ça. Hein, parce que je ne veux pas arriver à un point de dire non, c'est que l'avis de Jérusalem. Je pourrais rapporter des dizaines et des vingtaines et même une centaine des paroles qui ont le même avis de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que ça fait une ressemblance. À partir du moment où on est capable de parler la langue arabe. Et ça, c'est un conseil, et même Cheikh Mourbi rahimahullah dans ses fatawas, Cheikh Mourbi rahimahullah dans ses fatawas, et les autres savants, ils disent, ils parlent, ou si il est bien, il est recommandé que, et même, il le dit, on va lire par la suite, même, il est recommandé que, les parents parlent avec leurs enfants, avec la langue arabe. Et surtout s'ils la connaissent, s'ils la maîtrisent. Comme ça, parce que l'enfant, quand il est petit, il apprend facilement la langue arabe. Et certainement, comme il a dit, ça fait un signe, c'est un symbole de l'islam. Parce que malheureusement, et je le dis, et je le répète, et je le répète, et je le répète, maintenant c'est devenu de parler la langue arabe, c'est pas... C'est une honte. Oui ou pas ? Parler la langue arabe. Maintenant, tu rentres dans le marché, tu vas n'importe quel endroit, en face, le vendeur est en arabe, tu lui dis « Assalamu alaikum ». Bonjour. Comme là, combien ça vaut ? 10 euros. Tu me vois, un arabe. Tu me vois que je parle la langue en arabe. Tu t'entends bien que je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, ou même dans la rue. Tu passes, tu dis Assalamu alaikum. Soit il répond. Et s'il répond, il va te répondre par bonjour. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on n'a pas connu la valeur de la langue arabe. Il faut apprendre nos enfants la langue arabe, surtout qu'on la connaît, même avec Darija, même l'argot. Il faut habituer nos enfants à parler la langue arabe, parce que si à partir du moment, parce que surtout, ça, comme on dit, elle habitue la langue à prononcer la langue arabe. Parce que vous remarquez souvent, surtout ceux qui veulent apprendre, à l'âge de 30 ou 40 ans, on ne dit pas que c'est dur, c'est impossible, mais certainement c'est dur, oui ou pas, et ça. C'est dur d'apprendre à l'âge où on est occupé par autre chose, par le travail, par la vie quotidienne, etc. On n'a pas le temps, et c'est dur déjà à cet âge, parce qu'on est concentré par autre chose. Mais, il faut pas l'oublier, même si nous, on n'a pas eu l'occasion d'apprendre la langue, c'est pas trop tard, et surtout les enfants, surtout ceux qui ont les enfants, et ceux qui connaissent la langue arabe. Et malheureusement maintenant, on trouve des familles maghrébines, des Africains qui maîtrisent la langue arabe, leurs enfants, Allahu al-Musta'an. Tu lui parles en arabe, il te répond en français. Ça, je le vois dans ma famille, je le vois dans nos voisins, dans nos proches. On le remarque. Ses parents leur parlent en arabe, les enfants répondent en français. Pourquoi ? Pourquoi on est arrivé à ce point ? Hein ? C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, Akhir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te ramène Hafsa ? Hein? Mais est-ce que nous on fait l'effort? On parle pas à l'école. Est-ce que nous on fait. On, moi je peux lui dire, bah, dehors parle français. Ça me dérange pas, parce que t'es à l'école. Je peux pas te dire, parle en arabe. Je parle dans la maison. Est-ce qu'on fait un effort? Si je parle arabe, je donne des bonbons. Si je parle arabe, je te ramène au. Hein? Faire lui offrir un jeu, un cadeau, etc. Est-ce qu'on fait un effort? On fait pas. Lui, il parle français, mais il est encore petit. Pourquoi on les apprend pas dès maintenant? Et moi, ça me fait mal, et c'est vrai, malheureusement. Même les plus grands, c'est pas les petits, même des grands, des maghrébins, etc., qui connaissent l'arabe. Ils sont, et malheureusement, Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an, ça c'est une mosiba. Il faut pas dire, ouais, pourquoi il exagère. Non, c'est une mosiba, le fait qu'on ne parle pas l'arabe. Surtout, on est des arabes. Ceux qui connaissent pas, t'as une excuse. Mais ceux qui connaissent la langue arabe, même Dereja, et je vous dis, je suis une personne qui peut rester 24 heures sans prononcer aucun mot en arabe. Qui peut lever sa main, il peut dire pendant 24 heures, je ne parle pas 24 ans, 24 heures, tu parles la langue arabe sans prononcer aucun mot en français. Il n'y a pas un aujourd'hui. Moussaïd, le clavier, comment on le prononce en arabe? Voilà. Tu ne dis pas que je parle, on vit à la mosquée, non, la vie quotidienne, tu prononces n'importe quel mot, quand tu parles avec ta femme, tu rentres ce soir, tu n'importe quel mot, essaie de prononcer en arabe. Est-ce que vous aurez la capacité de parler en arabe? La réponse demain au Isha, on verra. Chacun fait un effort. Après le Isha, il rentre chez lui, aucun mot il prononce, il va au marché, il va acheter, c'est-à-dire la vie quotidienne, c'est pas, il sort pas de chez lui, il va me dire, j'ai parlé la langue arabe, non, je parle vraiment, il passe une journée quotidienne normale, il achète, il sort, il rentre, il part des petits avec des grands, il vient à la mosquée, il fait tout. Il y avait un moment, ça date pas loin, on parlait entre nous avec des frères, on parlait sur l'ordinateur, tu tapes sur Google un mot, et qui peut me traduire? Tu prends l'ordinateur, tu mets le clavier en langue arabe, et sur Google, tu tapes le mot islam. Qui peut traduire ça en arabe? Traduis ça, cette phrase. Je veux dire en langue arabe. Qui peut me traduire la phrase que je viens de citer? La phrase, elle commence maintenant. Mets le clavier en arabe. Écris le mot islam et trouve-le sur Google ou sur l'internet. Internet, j'ai dit internet, comme ça tu ne vas pas dire Google. Aïe. Aïe. Belarmia. Je l'avais en arabe. Aucun mot en français. Hein? Eh, hey, maintenant c'est les arabes. Moi je suis pas arabe aujourd'hui. Moi je suis plus arabe maintenant. C'est après la réponse que je deviens arabe. D'accord. Vous voyez la gravité? Mais si on vous demande de prononcer en anglais, tout le monde va lever sa main. Moi je connais pas l'anglais. J'avoue que je suis nul. Mais en anglais, tout le monde lève sa main. Pourquoi? Sinon, c'est pas ça. C'est juste une phrase normale. C'est une phrase qu'on utilise dans la vie quotidienne. On est incapable. Comment on peut lire un livre? Voilà, je vous demande, comment vous pouvez lire un livre? Un livre dans Tafsir. Vous prenez Tafsir, vous nous kafir. Sur un verset. Hey, comment vous allez comprendre? C'est juste un mot, une phrase quotidienne, la vie quotidienne normale, que normalement on doit l'utiliser quand on parle normal. C'est sans. Comment on peut lire le Coran? Comment on peut lire ce sunna? Comment on peut comprendre les paroles des prédécesseurs? Et les arabes à l'époque? Les recherches, comment? Et voilà le mosiba. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas l'effort. Qui sacrifie? Qui vient sacrifier? J'ai dit, moi, je fais chaque une heure, deux heures langue arabe par jour. Non. Ce que je dis, c'est l'école. D'accord. Est-ce qu'après l'école, tu apprends tes enfants la langue arabe quand ils rentrent chez toi? Quand ils rentrent chez eux? Ou va à la télé? Ou va faire ce jeu? Malheureusement, on fait que ça. Mais, est-ce qu'on fait des efforts? إلى الله المشتكى والله المستعان. أصبت إلى ذي شعر الله ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد.
وقاعدين لو كونسيل دو شيخ ابن تيمية رحمه الله ابخي كون كيس كيل كونسيل يجي
أما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب.
Regardez la parole et le conseil d'or et la recommandation de Cheikh Islam, où il dit la meilleure voie est de s'habituer à parler en arabe pour que les jeunes gens l'apprennent dans leur maison et l'école, et pour que le symbole de l'islam et ses gens prévalent. Cela rendra plus facile pour que les gens de l'islam la compréhension du Coran et de la Sunna et les paroles des salaf, c'est-à-dire les prédécesseurs. Et à la différence d'une personne qui s'habitue à parler une langue, puis vont en apprendre une autre et qui trouve cela difficile. Et certainement, on le remarque, et c'est par pratique, celui qui n'a pas l'habitude de parler la langue arabe. Bien sûr, celui qui n'apprend pas, il fait un effort pour apprendre. Celui qui la connaît, il est mieux. Et c'est pour cela qu'il a dit, la meilleure voie est de s'habituer à parler la langue arabe. Même entre nous, des fois, on mixe langue arabe, tu trouves 50% français, 50% en arabe. Et à des fois, 99% en français, des fois 10% en arabe. Pourquoi ? On fait un effort pour apprendre. On fait un effort. On dit pas non, moi je fais un effort. Même si je ne comprends pas. Essaye de... Habitue-toi à écouter déjà la langue arabe. Parce que le fait de trop d'écouter, tu vas mémoriser un jour le mot. Ça va te permettre à le prononcer facilement. C'est pour ça que je conseille toujours d'écouter pour apprendre et prononcer la langue arabe, inshallah. Donc ça c'est la parole de Cheikh Islam Taymiyyah. Aussi il rapporte dans un il dit dans le même ouvrage, c'est la suite, وَاعْلَمْ أَنَّ اَعْتِيَادَ اللُّغَةَ. Et ça, c'est une leçon que je l'ai constaté, ça fait une dizaine d'années, grâce à Allah. Mais jamais lu par... Comme je n'ai pas lu un passage d'un savant, je me suis dit peut-être c'est faux. C'est vrai, ça ne peut pas être vrai. Mais, alhamdulillah, en lisant l'ouvrage, j'ai trouvé cette faïda. Qui peut me donner l'impact et l'influence de parler la langue arabe ? Qui peut me donner un impact, une influence sur la personne qui parle la langue arabe ? Vous n'avez jamais constaté ça ? Vous n'avez jamais remarqué une personne qui parle en langue arabe et une autre personne qui parle en langue arabe? Vous n'avez jamais remarqué un constat, soit dans son comportement, sa personnalité, son raisonnement, non? Qui a remarqué ça? Cheikh Islam, il dit,
وَاعْلَمْ أَنَّ اَعْتِيَادَ اللُّغَةَ يُؤَثِرُ فِي الْعَقْلِ وَالْخُلُقِ وَالدِّينِ تَأْثِيرًا قَوِيًا بَيِّنًا ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق.
Ça, cette faïda, ça si Cheikh Zami il a pas dit, certainement on peut revenir à ceux qui font la ilm al-nafs. Comment on dit ilm al-nafs? La psychologie, voilà. Eux, ils vont dire que la langue peut influencer sur la personnalité, etc., etc. Cheikh Salim, il a déjà dit. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Salim? Il dit, sachez
que s'habituer à parler une langue a un effet clair et fort sur la pensée et le comportement et les obligations religieuses. Cela a aussi un effet en faisant ressembler aux premières générations de cette umma, les compagnons et les tabi'in, le ressembler améliore la pensée, les obligations religieuses et le comportement. Qui a pensé à ça? Qui a pensé un jour que la langue arabe, elle peut influencer sur le comportement, les pratiques religieuses? Et le troisième, c'est... Non, qu'est-ce qu'il a dit sur le film? Il a dit sur trois choses. Pas l'intelligence, non. On vient de le dire. Il a dit sur la pensée, le comportement et les obligations religieuses. Et ça, c'est réel. Et c'est vrai, ça. C'est pas... C'est vrai. Si on remarque, on trouve que la langue arabe, elle a une influence sur la pensée. Certainement, vous remarquez très bien. Certainement qu'ils connaissent la langue arabe, ils ont un raisonnement. Ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, ils lisent qu'en français ou qu'une autre langue, ils ont une autre pensée. Ça, vous ne le remarquez pas, mais moi je le remarque. Parce que, voilà. Et ça, c'est un impact. C'est la langue arabe. Je ne dis pas ceux qui n'ont pas la langue arabe, leur pensée est mal, etc. Non, je parle qu'il y a une différence. Et l'influence sur la pensée, et même sur le comportement, une personne qui est dans une ambiance, comme on dit, arabe, certainement il a sa influence sur son comportement. Et vice versa, Samy pourra répondre. Une personne qui vit dans une ambiance non arabe et arabe. On remarque, on constate, surtout nous, quand on a vécu dans les deux, on remarque qu'il y a une différence énorme des traditions qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes pensées, ce n'est pas les mêmes réflexions. Il y a beaucoup de différences. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vécu dans une ambiance non arabe et dans une ambiance arabe, certainement, le comportement il est différent. Et aussi il a dit sur les pratiques religieuses. Et aussi il a dit وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. Ah, là on arrive le jugement d'apprendre la langue arabe. Qu'est-ce qu'il dit? إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ وَلَا يُفْهَمُ إِلَّا بِفَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ثُمَّ مِنْ هُنَا. Je continue la lecture, ensuite je lis la traduction. ثُمَّ مِنْ هُنَا مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْأَعْيَانِ وَمِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة. شكرًا إلى سيدي. قال كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه لأن الدين فيه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة هو فقه أعماله. Je vais traduire le passage. Il dit Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah, de plus, la langue arabe elle-même fait partie de l'islam. Et sachez que l'arabe est un devoir obligatoire. C'est un devoir obligatoire. S'il est un devoir de comprendre le Coran et la Sunna, il ne peut pas être compris sans connaître l'arabe. Alors, les moyens nécessaires pour accomplir le devoir sont aussi obligatoires. Est-ce que c'est clair le jugement? C'est pour ça, les savants, s'ils disent, tiens, il y a un détail, hein, ne dites pas, il y a un détail. Mais à la base, le jugement d'apprendre la langue, c'est une obligation. Et une personne va me dire, mais c'est quoi le jugement? C'est quoi le délai? C'est quoi l'argument? C'est simple. Le fait de comprendre Al-Qur'an ou Sunna, c'est une obligation. Est-ce que c'est clair ou pas? Comprendre, apprendre ça, c'est une obligation. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah Ta'ala sans comprendre Al-Qur'an et Sunna. D'accord. La langue arabe, c'est un outil pour comprendre la langue arabe. Donc, si la compréhension de la langue arabe, ou le Coran et la langue arabe, c'est une obligation. Et la langue arabe, c'est un moyen. Donc certainement, le moyen qui te permet à accomplir la compréhension de la Coran et la Sunna, les moyens aussi, ils deviennent obligatoires. Et c'est ce raisonnement sur lequel les savants se basent. Il n'y a pas que lui. Tout à l'heure, quand on termine, Inch'Allah, si on aura le temps, je vais lire les passages des autres savants qui donnent le même raisonnement que... Comme il a dit, alors les moyens nécessaires pour accomplir le devoir sont aussi obligatoires. Et aussi il dit, il y a les choses qui sont obligatoires sur tous les individus. Donc c'est vrai, il faut savoir, quand on dit une chose, elle est obligatoire, il faut toujours demander, est-ce que, comme on a dit dans les cours de jurisprudence, est-ce que c'est un fard aïn ou fard kifay? Est-ce que c'est une obligation individuelle pour chacun? Elle est obligatoire pour chaque individu, ou une fois qu'il va y avoir, si une personne parmi nous l'a fait, elle devient plus obligatoire pour les autres, comme on avait dit le jugement de l'adhan, que c'est pas une obligation individuelle, mais fort qu'il va y avoir. La prière obligatoire, c'est une obligation, mais individuelle, c'est-à-dire chaque individu doit faire la prière. Donc, on revient à la langue arabe. Est-ce que c'est un fard kifaya ou fard aïn? Cheikh Seng, il a dit, de plus, la langue arabe elle-même fait partie de l'islam, et sachez que l'arabe, donc on a déjà lu, il y a des choses qui sont obligatoires sur tous les individus, c'est-à-dire fard aïn, et d'autres qui sont obligatoires sur la communauté, et ou la umma, c'est-à-dire fard kifaya. C'est-à-dire, si certaines personnes les accomplissent, le reste est soulagé de l'obligation. C'est la signification du récit rapporté par Abu Bakr ibn Abi Shayba. Il a cité la parole de Omar ibn al-Khattab, il a dit, Omar ibn al-Khattab a écrit à Abu Musa al-Ash'ari, il a dit, apprenez à Sunnah et apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe. Apprenez que le Coran, je répète, apprenez la Sunna et apprenez l'arabe. Apprenez le Coran en arabe, car il est en arabe. Selon un autre hadith rapporté par Omar, qui a dit, apprenez l'arabe, car cela fait partie de votre religion. Et apprenez comment les biens du mort doivent être divisés, c'est-à-dire l'héritage. Faraïd. Pour ceci, fait partie de votre religion. Cet ordre de Omar, Cheikh Islam, il explique le fait, quand il a dit Omar al-Khattab, ta'allamu, apprenez quoi la première chose? As-Sunnah. Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Ta'allamu al-Arabiya. Et Cheikh Islam, il détaille. Pourquoi Omar? Regardez là, l'intelligence et la science qu'il avait, Omar ibn al-Khattab. Pourquoi il n'a pas dit apprenez Sunnah, comme nous, souvent on dit, les gens apprennent le Coran et Sunnah. Mais jamais on en trouve des assises ou des cours d'arabe dans la mosquée. Oui ou pas, ça? Où on a trouvé des cours d'arabe dans la mosquée? Parce qu'on pense que la religion s'est limitée au Coran et Sunnah. On ne dit pas que non. Pour comprendre ce Coran et ce Sunnah, il faut des outils, surtout on est dans ce pays. On peut pas faire un cours en arabe. Et vous avez remarqué, tous les cours, on les fait en français. La majorité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cet outil. Si tout le monde a ce outil, a cet outil, ce sera très facile à propager et transmettre et terminer des livres et des livres. Si on a fait tout en arabe, mais vu que c'est un outil, il faut aussi donner l'importance à ces outils. C'est pour ça qu'il faut que vous faites, vous, pas que la mosquée, vous aussi faites un effort à prendre la langue arabe. Certaines, toujours, ils essaient de lire des livres dans la jurisprudence, des livres dans la dogme, etc. Mais aussi, faites ou donnez un temps, sacrifiez un temps aussi de apprendre la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est un moyen. Et on revient à la parole de Ibn Omar. Pourquoi il a dit « Ta'allamu sunnah, ta'allamu al-fara'id » ou « Ta'allamu al-arabiya » Cheikh Islam, il justifie. Regardez, fiqh. Omar et aussi Cheikh Islam Timia, Fisnibatihi lihabi al-fawad. Il a dit, donc je le redis en arabe, il a dit, Rahimakallah. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه في فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه لأن الدين فيه أقوال وأعمال الدين فيه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة هو فقه أعماله الله أكبر هو ما كيف كده دي شيخ الإسلام en tirant de conseil de Omar. Il a dit, cet ordre Omar d'apprendre l'arabe et la sharia, parce qu'il a dit ta'allamu as-sunnah, c'est sharia, c'est la législation, c'est le din. Ensuite il a dit ta'allamu al-arabiyya. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, cet ordre Omar d'apprendre l'arabe et la sharia combine les choses qui sont nécessaires. Car la religion implique des paroles comprises et des actions. On voit ce qu'il a dit. Il a dit, la religion implique des paroles comprises et aussi des actions. Donc, comprendre l'arabe est la manière de comprendre les paroles de l'islam. Et comprendre la sunna est la manière de comprendre les actions de l'islam. Est-ce que c'est clair l'ordre qu'il a donné à Omar al-Khattab? Ta'allamu as-sunna. Wa ta'allamu al-arabiyya. Parce qu'il a dit, dans la législation, on a deux choses. On a sharia, on a des paroles, et des pratiques. Oui ou pas? Donc, pour comprendre les paroles, certainement il faut apprendre la langue arabe, n'est-ce pas? Pour comprendre la parole du Prophète sallam, ou pour comprendre la parole des Sahaba, certainement c'est la langue arabe. Donc, comment on peut les comprendre? Qu'avec ou qu'à travers l'apprentissage de la langue arabe. Et aussi, la législation, il n'y a pas que des paroles, il y a aussi des pratiques. Et ces pratiques, comment on les apprend? C'est connaître la sunna. Comment je peux faire ma prière? Comment je peux savoir comment faire la prière? Comment jeûner? C'est apprendre la sunnah. Vous remarquez? C'est pour ça qu'il a combiné l'apprentissage de la sunnah et l'apprentissage de la langue arabe. Parce que les deux, ils fusionnent, ils constituent ou ils forment la législation. Vous remarquez le conseil de Omar ibn Khattab, rahimahullah. Donc ça, tout ce que je viens de lire, c'est juste un extrait de ce qu'il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim, dans le premier mujallad, celui qui veut revenir à la page, ça dépend des éditions, la page 527 et 528 et le premier tome. Donc vous remarquez, c'est un résumé et c'est largement suffisant pour la réponse concernant le jugement de l'apprentissage de la langue arabe. Il reste combien de temps? Hein? D'accord. Donc pour terminer, Inch'Allah, peut-être, on ne va pas encore terminer le dars. Non. C'est-à-dire? Tu t'allèmes l'oral arabe ou ahdat? La chèque. Dis-moi d'aller à tous. Il pose la question, est-ce que il est permis d'apprendre la langue arabe seul? Certainement il est permis. certainement, je dis, sans évidence, il est permis. Mais, si on trouve une personne qui nous apprend la langue arabe, c'est mieux que tu apprends seul. Et si tu trouves une école bien stricte, etc., c'est mieux que tu apprends par une personne, etc. C'est des degrés. Certainement, si je ne trouve aucune personne, même si je prends le livre et je fais un effort, alhamdoulilah, on est dans une ambiance qu'on va trouver. Alhamdoulilah. On trouve, si on cherche, on trouve, alhamdoulilah. On trouve minimum une seule personne. Minimum parce que, alhamdoulilah, une ambiance, alhamdoulilah, on peut trouver des gens qui connaissent la langue arabe. Donc certainement, si tu ne trouves pas, apprends seul. Donc c'est des degrés. Plus tu trouves mieux, plus c'est mieux. Parce que ça te permet, ça va te faciliter, en fait, les différents jugements, c'est parce que ça va te faciliter l'apprentissage. Parce qu'apprendre seul, peut-être tu vas mal compris, tu vas mal comprendre, peut-être tu vas mal lire, etc. Mais certainement, lire par une personne, c'est certainement mieux qu'apprendre seul. Être en groupe, c'est mieux d'apprendre toi et une seule personne. Trouver un organisme où on peut apprendre la langue, c'est mieux. Aller à l'université, c'est le plus parfait. Parce que c'est clair, c'est des degrés. Mais personne ne peut nous dire non, c'est interdit. Peut-être par conséquent, le fait que tu vas commettre des erreurs. Pourquoi ? Je vais donner un exemple. Celui qui ne connaît pas du tout les lettres alphabétiques, comment il peut apprendre seul ? Il ne peut pas. Parce que ça nécessite une personne qui doit entendre. Ra. C'est pas quand je dis ra, tu prononces ra. Tu remarques ? Parce que ça nécessite que la personne doit entendre et il va t'expliquer d'où on doit sortir les lettres, les symboles. Donc ça va te permettre surtout à la lecture. Mais les règles, etc., on peut apprendre et, alhamdoulilah, il y a des frères qui l'ont appris. Donc je continue à lire certains passages des autres savants qui parlent sur le jugement d'apprendre la langue arabe. Certainement, on n'aura pas le temps pour terminer. Peut-être qu'on va consacrer demain. Demain, Inch'Allah, entre nous en arabe, peut-être je vais continuer si je ferai le dars, demain, Inch'Allah. Donc, je vais essayer d'avancer. Aussi, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahoullah, dans ses fatawa, il rapporte une autre parole aussi pour, comme ça, on va profiter. قال Ibn Taymiyyah, rahimahoullah. ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي وأن نصلح الألسن المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعربي في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ سلام dans un autre passage dans ses fatawas, pardon le livre qu'on vient d'écouter, il a dit certainement il est évident que l'apprentissage de la langue arabe et l'enseigner c'est un fard al-kifaya, c'est une obligation mais pas individuelle. Ce n'est pas une obligation individuelle. C'est-à-dire, fard kifaya. Wa kana as-salafu, c'est-à-dire les anciens ou les prédécesseurs, yu'addibuna awladahum 'ala an-nahn, ils éduquent leurs enfants à ne pas commettre des erreurs. Fa nahnu ma'muruna amra ijabin wa amra istihbabin. Il dit, on est recommandé soit un ordre obligatoire ou préférable. Il justifie Cheikh Islam, il dit, pourquoi il a suivi pour protéger la langue arabe et aussi corriger la langue. Par la suite, parce que si on protège la langue arabe et on évite de commettre les erreurs, certainement on va protéger la compréhension du Coran, c'est-à-dire le livre d'Allah et la Sunnah. Et aussi, on va suivre les Arabes, aussi, c'est-à-dire dans la façon de parler la langue arabe. C'est-à-dire, si tout le monde prononce ou tout le monde commet des erreurs dans la langue arabe, ça devient quoi? Ça devient naqsan wa aib. Ça devient un manque et un défaut, le fait de laisser les gens à parler. C'est-à-dire sans parler la langue arabe dans ses règles. Et aussi, Cheikh Ziyam, aussi dans le livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, même si on avait lu ce livre, je vais lire aussi Kalam al-Razi rahimahullah. Aussi un autre alim, il dit في كتابه المحصول لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما واردان بلغة القرآن ونحوهم وتصريفهم كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. Écoutez ce qu'il dit l'imam al-Razi aussi. Il dit, vu que nos références dans la connaissance de notre législation, il revient au Coran et au Sunnah. Et ces deux références, c'est-à-dire le Coran et le Sunnah, ils sont venus en langue arabe. Et la science de notre religion dépend à la science de ces choses, c'est-à-dire dépend de la compréhension de Al-Qur'an et Al-Sunnah. Donc il a cité l'Irak, il a cité Cheikh Islam, il a dit وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلَّا بِهِ وَكَانَ مَقْدُورًا عَلَى الْمُكَلَّفِ فَهُوَ وَاجِبُ. Certainement, la compréhension du Qur'an et Sunnah, c'est une obligation. Et tous les moyens qui permettent d'accomplir ces obligations, eux-mêmes, c'est-à-dire ces moyens aussi, ils deviennent obligatoires pour ceux qui ont la capacité où ils peuvent, c'est-à-dire ils ont les moyens d'apprendre, certainement pour eux, elles deviennent obligatoires. Donc, celui qui a la capacité d'apprendre la langue arabe, elle devient obligatoire d'apprendre la langue arabe, selon l'imam al-Razi. Et aussi, même des autres passages, il a dit, قال شعبة رحمه الله مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له. On a cité ce texte, on a dit, l'imam شعبة il a dit, رحمه الله, celui qui apprend le hadith et celui qui n'apprend pas l'arabe, c'est comme un burnous, comme on avait expliqué, mais il n'a pas la capuche. Et aussi l'imam al-Asma'i رحمه الله il a dit, إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله أو في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. On avait traduit tout à l'heure. Aussi un passage de Al-Khatib عن الرحبي, aussi on avait traduit. On traduit peut-être les paroles de Mujahid, rahimahullah, قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العربي. Imam Mujahid, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte? Il a dit, لا يحل, il n'est interdit à aucune personne qui croit en Allah et le jour dernier qu'il parle du livre d'Allah. C'est-à-dire, il fait l'interprétation du Coran, il a l'âme yakun, tant que, ou si il n'a pas, ou il n'est pas un savant de la langue arabe. Est-ce que c'est clair, Hassan? Il est interdit à aucune personne qui croit en Allah et le jour du jugement de parler dans le Coran ou l'expliquer s'il ne connaît pas, il n'est pas un savant dans la langue arabe. Et malheureusement maintenant, c'est devenu n'importe qui avance, il peut interpréter un verset. Écoutez la parole lui-même, Mujahid. Et aussi, pour terminer peut-être, وكذلك ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام. Ibn Hazm est connu. Il dit, أنه يجب عينا على الفقيه. Là, comme on avait expliqué, qu'on avait parlé sur les avantages d'apprendre la langue arabe, on a dit un sixième, mais c'est pas un sixième avantage, mais j'ai donné une faïda, il a dit, les savants, surtout ceux qui ont qu'on appelle al-mushtahid, qui peut faire un effort ou donner un avis dans la législation, c'est-à-dire al-mushtahid, il donne un avis ou fait un effort dans la législation, et aussi al-mufassir, celui qui interprète le Coran. Parmi ces conditions, il faut que la personne maîtrise la langue arabe, et c'est devenu une condition pour être un alim, un savant mushtahid ou un mufassir. Et aussi, c'est pour ça, le Ibn Hazm, il cite ça, il dit, أنه يجب عينا على الفقيه أن يكون عالما بلسان العربي. فقال رحمه الله ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العربي ليفهم عن الله عز وجل
وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن وبه يفهم معاني الكلام الذي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة عن المسميات وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني فلم يعرف اللسان العربي الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه، لأنه يفتي بما لا يدري، وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. Et pour terminer, رحمه الله. Donc ça c'est la parole de Ibn Hatam qui confirme ce qu'il a dit Cheikh Hassan al-Taymiyyah, ce qu'il a dit Imam al-Razi, ce qu'il a dit Shu'abi, ce qu'il a dit Mujahid, ce qu'il a dit Ibn Hatam, ce qu'il a dit Al-Khatib. Donc, qu'un savant, il est interdit pour qu'un savant qui parle dans le Coran et dans le Sunna, et surtout de faire la fatwa sans connaître la langue arabe. Et pour terminer, وَإِنَّمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ بِالْوُجُوبِ الْعَيْنِ لِتَعَيُّنِ فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَصَدَّرَ لِتَعَلُّمِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَةِ مِنَ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ فَهْمَهُمَا فَرْضٌ وَاجِبٌ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِتَعَلُّمِ النَّحْوِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Donc ça c'est une règle. C'est une règle à apprendre et c'est pratique dans tous les pratiques. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Ça c'est une règle que les savants l'ont mis, tirée des textes du Coran et du Sunna. Pour simplifier, on ne simplifie pas. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Si une chose, elle est obligatoire, ça il faut savoir, c'est une règle. Si une chose, elle est obligatoire, et on a des outils qu'on ne peut pas atteindre ces choses obligatoires, qu'à travers ou qu'avec ces outils, certainement ces outils, ils deviennent obligatoires. Donc vu que la compréhension du Coran et du Sunnah, pour n'importe qui, soit pour un savant, soit pour un débutant, soit pour un demandeur de science, vu qu'ils sont obligatoires, et certainement la langue arabe, c'est un outil qui permet de comprendre ces choses qui sont obligatoires, donc certainement, par déduction, on déduit que ces outils, ils deviennent obligatoires. Et ça, c'est une règle d'or à apprendre et apprendre par cœur. Parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, dans les jugements, et les savants l'utilisent. Et on aura l'occasion de parler autrement. Donc, alhamdoulilah, on a terminé, on a expliqué en détail, on a tiré, d'après les textes, des savants, le jugement d'apprentissage de la langue arabe. Il nous reste demain, inshallah ta'ala, sur un dars, Allahu a'lam, de terminer le quatrième point, de donner l'importance ou l'influence de la langue arabe dans les jugements, sur les jugements. Soit dans le Coran, dans l'explication du Coran et les jugements tirés à partir du Coran, ou dès la compréhension du hadith, on va donner des exemples, et même dans la langue arabe. C'est-à-dire on va donner des phrases simples qu'on utilise, mais on va voir l'influence et l'importance de connaître la langue arabe pour comprendre. Et on va donner des exemples pratiques, et alhamdoulilah j'ai préparé des exemples. Et sur ce point, ce quatrième point, pour vous partager l'information, et pour en terminer inshallah, je vais parler sur... Même le quatrième point, c'est Athar al-Lughafi, Istinbad al-Ahkam. Carrément, il y a un livre, celui qui veut revenir à avoir des exemples réels et pratiques sur l'influence de la langue arabe, Istinbad al-Ahkam, je lui conseille de revenir à ce livre. Athar al-Lughafi, Ikhtilaf al-Mujtahidin. C'est un livre, il contient que des exemples sur l'influence et l'importance de la langue arabe dans les avis chez les savants. Et carrément, c'est un bon livre que je vous conseille de lire. Donc, là, demain, inshallah ta'ala, sur Al-Dars, on va tirer des exemples tirés de ce livre, inshallah ta'ala, pour terminer le livre. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa ma'rifatan al-Qur'an.